RCF.
Poursuite de cette série Halte spirituelle en compagnie du philosophe Martin Stephens, auteur d'un petit traité de la joie paru chez Salvator. Martin Stephens, nous évoquions le don fait à chaque homme d'un Dieu trinitaire. Nous avons évoqué ce Dieu des chrétiens. Et vous dites dans votre livre que le péché, finalement, c'est de ne pas accuser réception du don qui nous est fait. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, les pères de l'Église latine disaient que le péché, c'est la curvatio in se ipsum, c'est-à-dire le fait, même si on traduit littéralement, de s'incurver autour de soi, j'aime bien même dire de s'emberlificoter sur soi. Et on voit bien, je crois que tous les auditeurs voient parfaitement ce que c'est que de se faire juge de soi-même, de se faire d'ailleurs juge sévère ou juge clément de soi-même, de s'emmêler dans ses propres pinceaux. Bon, et ce qui nous coupe du Créateur, bien sûr, mais même très simplement des gens qui nous entourent. Inscrire notre vie dans l'économie d'un don, c'est tout à coup arriver avec un couteau et puis couper ces fils qui nous enroulent sur nous-mêmes. Et tout à coup, c'est dire, mais au fond, voilà, la vie sera ce que Dieu donnera, comme le dit bellement Maurice Bellet, et ce qui compte, c'est le fruit que je porte au monde. C'est tellement vrai d'ailleurs que le péché consiste en ne pas recevoir sa vie comme un don. C'est tellement vrai que ce qui répond au péché, c'est le pardon. C'est-à-dire le fait que Dieu, lui, continue de donner, malgré nos refus, a la patience de se faire donateur quand même nous lui opposons notre lenteur à recevoir et à nous réjouir du don, tant et si bien que oui, le pardon, c'est le préfixe père qu'on retrouve dans pardon, c'est un préfixe intensif qui indique que le pardon, c'est le don ultime, le don qui a eu la patience de notre refus, mais qui un jour, si on ouvre les bras, même 10 minutes avant de mourir, eh bien on reçoit tout ce qui nous est donné et auquel on s'était refusé.
Mais revenons sur cette idée de don originaire. Est-ce qu'il n'y a pas chez l'homme, finalement, une idée qui lui vient à douter de ce don, de la gratuité de ce don, de se dire mais finalement il me donne quelque chose, mais est-ce que je vais pas devoir lui rendre, et au centuple, un espèce de poids de la dette qui nous fait dévier.
Oui, bien sûr, et je crois qu'une des critiques intéressantes que Nietzsche, par exemple, adresse au christianisme, c'est de dire, mais un Dieu donateur, et même un Dieu qui va jusqu'à mourir pour que nous puissions comprendre qu'il se révèle comme non seulement donateur, mais pardonateur, pardonnant. Bon, c'est atroce, il dit, parce que ça veut dire que la dette, elle est infinie. Mais c'est l'orgueil qui parle là chez Nietzsche, un orgueil qu'on peut bien comprendre, mais c'est l'orgueil en tant que Nietzsche croit que rendre grâce, c'est rendre quelque chose. Il pense que finalement, la façon dont on doit honorer ce Dieu donateur, c'est de lui rendre la pareille. Or, je crois que Dieu ne demande qu'une chose, c'est comme Jésus à Zachée, « Zachée, je veux demeurer chez toi ». Au fond, il ne demande qu'une chose, c'est que nous le recevions, comme il est dit dans Saint Jean, il s'agit pour Dieu que notre joie soit parfaite, c'est-à-dire il s'agit de nous partager sa joie, dont on a dit que c'est la joie du don, puisque ce Dieu-là est trinitaire et toujours déjà relation.
Donc il y aurait une idée perverse en regardant la croix, on pourrait se dire finalement, il n'y a qu'une manière de rattraper les choses, c'est de me sacrifier totalement, voire de sacrifier ma vie, de sacrifier ma joie, mon bonheur. Donc on est là dans la perversion.
Oui, on est dans la perversion d'un message, parce qu'au fond, soit la joie nous accuse, soit la croix, pardon, nous accuse, soit la croix nous dit, mais tu peux aimer jusque-là. Ta joie, si tu l'écoutes, a les moyens de se faufiler jusque dans l'épreuve. Et je crois que les gens qui témoignent en faveur de notre religion chrétienne sont des gens qui aiment contre les évidences, qui, au fond, font leur ce pouvoir parfaitement divin, cette liberté souveraine de Dieu, qui est d'aimer contre les apparences, qui est de continuer d'avoir les bras ouverts, comme ceux du Christ sur la croix, là où l'épreuve pourrait leur autoriser à les fermer.
Donc, en accueillant le don, il redonne le don, mais par amour.
voilà, par amour d'abord. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir aussi du sacrifice. Hein, je crois que... Mais si vous voulez, ce n'est pas le sacrifice d'abord. C'est-à-dire qu'il y a du sacrifice. Y a, parce que j'aime ma femme, par exemple, eh bien, je lui offre d'éconduire cette jeune prétendante qui a mis entre elle et moi un processus de séduction. Donc, le sacrifice que je fais de cette aventure qui se propose à moi, c'est... En fait, on pourrait dire, ah, mais c'est triste, c'est un sacrifice. Mais non, c'est un cadeau que je fais. Donc, le sacrifice peut être une très belle chose.
Oui, en même temps, ça coûte.
Voilà.
Sur le moment, ça peut coûter.
Voilà, sur le moment, ça coûte parce qu'il s'agit de tuer un possible qui nourrissait notre fantasme et tout. Bon, mais au fond, c'est un cadeau. Et je crois que cette catégorie du don ne dit pas qu'il ne faut pas sacrifier, qu'il ne faut pas se donner des limites, bien sûr, mais replace ses limites dans une finalité qui les dépasse et qui est vraiment de participer à la joie divine.
Martin Steffens, vous dites que finalement, c'est dans une dépendance que l'on est heureux, que l'on reçoit la joie. Alors là, il y a un paradoxe aussi. En tout cas, c'est difficile à entendre, ce mot de dépendance. Si je dépends de Dieu, si je dépends de mon époux, d'un ami qui est cher, il y a donc un lien, une relation. Et c'est là où on trouve la joie.
Tout à fait. J'aime bien raconter à mes élèves l'histoire du moine bouddhiste Milarepa, qui était un jeune garçon qui voulait atteindre la vérité absolue. Alors, il entre au monastère. Bon, et il arrive à faire 7-8 heures de méditation par jour, mais au monastère, il faut quand même cultiver ses carottes, il faut s'occuper des nouveaux arrivants. Bon, alors, il devient ermite, il arrive à faire 15 heures de méditation par jour, mais il faut accueillir ceux qui viennent lui demander un conseil, une bénédiction. Alors, il s'en va dans la montagne profonde et là, il arrive à 20 heures de méditation quotidienne. Il se nourrit uniquement de racines qui l'environnent et il se dit, là, je vais toucher la vérité absolue. Bon. Mais un jour, il n'y a plus rien à manger et il se rend compte qu'il a faim et que s'il continue comme ça, eh bien, la méditation ne va pas être possible et lui vient la vérité absolue, à savoir quand on a faim, on mange. On pourrait croire que c'est très bas de gamme. En réalité, ça veut dire que par notre corps même, nous sommes liés aux autres. Et la vérité absolue, c'est une vérité de relation. C'est-à-dire qu'il redescend, il retourne au monastère et il fait bien ce qu'il avait d'abord rejeté pour trouver cette vérité absolue. La vérité absolue de l'homme, c'est qu'il est un être relationnel.
Donc pour être heureux, il faut vivre en relation.
Tout à fait. Chacun le sait. Vous donneriez tous les biens de la terre à un homme sans possibilité de les partager. Imaginez votre plus grand désir de manger tel plat avec telle bonne bouteille de vin, avec tel argent et tout, mais sur une île déserte. Personne n'en veut. Ce qui fait la qualité de notre vie, c'est l'amitié, c'est ce lien qui nous lie les uns aux autres.
Alors ça nous rend heureux et en même temps ça nous fait souffrir puisque tout le monde sait ici que s'attacher, c'est l'éventualité de souffrir, même s'il y a l'amour. Le don, c'est un détachement.
Tout à fait, c'est même pas même s'il y a l'amour, c'est que l'amour est sans doute la plus grande joie qu'on peut connaître, mais c'est une joie douloureuse. Je crois qu'il faut sortir du cadre binaire, d'opposer joie et douleur, de penser que la joie est du côté du confort et que le contraire de la joie, c'est du côté de la souffrance. Je crois que nos joies les plus fortes sont des joies douloureuses. En effet, quand on est père ou mère, on se rend bien compte qu'on travaille non à gagner quelque chose, mais à un jour perdre quelqu'un, puisqu'on travaille à rendre autonome cet enfant. Et notre plus grand désir, c'est que un jour il puisse se passer de nous. C'est un désir très fort, c'est un amour de dépossession, mais c'est aussi et toujours en même temps une douleur. Et je trouve que c'est très important aussi de rappeler à notre époque que la joie peut être douloureuse.
Donc une joie douloureuse, une douleur qu'on ne va pas chercher par masochisme, mais qui est de fait dans la réalité de l'amour. ou du lien, de la relation, parce que il y a un autre et ça fait souffrir.
Oui, tout à fait. C'est Gustave Thibon, un penseur français mort en 2001, qui disait que on était dans une société qui multipliait les amortisseurs. Le but, c'était de ne pas souffrir, mais aussi, il entendait amortisseur en son sens propre, ben pour ne pas souffrir, il suffit de ne pas vivre. Pour ne pas souffrir de perdre telle ou telle personne, il suffit de ne plus aimer. Et au fond, un monde qui aurait été composé uniquement de fougères et de pierres, c'est un monde où on aurait peu souffert. Mais c'est un monde aussi très peu passionnant. Et l'homme est, je crois, l'être qui est la plus grande caisse de résonance de tout ce qui est douloureux dans cette existence, mais aussi en même temps de tout ce qui est beau. Et c'est ce qui en fait l'être le plus digne.
Et la douleur nous permet d'approcher l'autre aussi, de partager avec lui la condition humaine.
Exactement, il y a cette co-fragilité, cette vulnérabilité partagée nous ouvre sur plus que nous-mêmes.
Oui, parce qu'on pourrait rêver de, comme ça, le mythe de l'homme parfait. D'ailleurs, c'est actuel aujourd'hui, là encore, éviter la souffrance à tout prix. Il y a une espèce de côté lisse qui pourrait être développé, un rêve d'homme lisse.
Oui, tout à fait. Et au fond, quand vous regardez les appareils techniques qui nous entourent, ce sont souvent des médiations qui ne nous relie pas. Donc des médiations, Internet, la télévision, etc., qui ne nous relie pas vraiment au monde et qui nous privent bien souvent de la chair de l'autre.
À demain, Martin Stephens.